Alexandre Rosset.
Bonsoir, une journée pour récolter des fonds pour les maladies génétiques rares. Le Téléthon s'est déroulé aujourd'hui à travers la région. Des dizaines de manifestations ont été organisées par les pompiers jurassiens. RFJ est d'ailleurs parti à leur rencontre ce matin dans le cadre d'une émission spéciale. Cédric Erard du SIS Franche-Montagne Centre nous explique ce qui pousse les pompiers à se mobiliser d'année en année.
C'est simplement l'aide, en fait, l'entraide pour les enfants, essayer de trouver un maximum de... Voilà, aussi changer les thèmes, en fait, et puis trouver des nouvelles activités à proposer. Ça change aussi de ce qu'on fait au quotidien, dans notre vie, au travail, tout ça. Donc c'est vrai que ça permet de changer de ce qu'on fait, et puis ben, pour une bonne cause, et puis voilà, pour aider la recherche.
Et les dons peuvent également être effectués par le biais du site téléthon.ch. Elle a marqué les Franches-Montagnes en raison de sa vie spirituelle intense. Jeanne Froidevaux, aussi appelée Jeanne de la Beauce, du nom de son hameau de naissance, est décédée il y a 400 ans. Pour marquer cet anniversaire, l'unité pastorale des Franches-Montagnes et l'association Jeanne de la Beauce ont organisé ce week-end plusieurs événements. Cette jeune religieuse avait fait l'objet d'une biographie de plus de 400 pages en 1637. L'objectif est aujourd'hui de rééditer cet ouvrage en français moderne, comme l'explique Pascale Herbeya, présidente de l'association Jeanne de la Beauce.
C'est un livre qui d'emblée a été écrit en français au début du XVIIe siècle. C'est pas du tout naturel. Un jésuite de cette époque-là aurait dû écrire en latin, c'était beaucoup plus simple pour lui. Le français, c'est une langue qui était utilisée par les gens simples, par les gens du peuple, et c'est donc clairement à cette population-là, à cette personne-là que s'est adressé le révérend Étienne Parizeau à ce moment-là. Et donc, c'était bien l'idée de rendre ce document, ces informations, accessibles au plus grand nombre. Et aujourd'hui, ce livre est quand même malgré tout, même s'il est sur Internet, il n'est quand même pas si facile d'accès et à comprendre parce qu'il est écrit dans une langue qui aujourd'hui est largement dépassée. Donc il faut la mettre au goût du jour, il faut la remettre d'actualité comme cette langue d'emblée a été voulue pour le plus grand nombre.
Une messe solennelle se déroulera demain à 10h à l'église de Seigneux-Légier en mémoire de Jeanne de la Beauce. Quatre jeunes fribourgeois de 16 à 18 ans ont été tués hier soir dans un accident de la circulation à Collonges dans le département français de l'Ain. Les victimes, trois hommes et une femme, étaient domiciliés dans les districts de la Veuvaise et de la Sarine, selon la police fribourgeoise qui a été mandatée pour annoncer les décès aux familles. Leur voiture a fait une sortie de route avant de s'embraser. L'avenir du Festival du film français d'Helvétie est incertain à Bienne. Les cofondateurs et directeurs de la manifestation ont annoncé aujourd'hui quitter leurs fonctions avec effet immédiat. Charlotte Mazzini et Christian Kellenberger invoquent des motifs personnels urgents. Dans un communiqué, la ville regrette cette décision et indique se tenir à disposition pour encourager la poursuite de l'événement ou la création d'un nouveau festival dédié au 7e art. L'action des écoles du Jura bernois et de Bienne pour déminer l'Ukraine touche à sa fin. Le projet ambitieux lancé il y a un an avait pour objectif de financer une machine de déminage en collaboration avec la fondation Diger. Ce sont plusieurs centaines d'élèves accompagnés de leurs enseignants qui ont participé à ce vaste mouvement. Et aujourd'hui, l'action se termine sur un succès grâce notamment à un donateur privé qui a offert 500 000 francs. Frédéric Guerne, le directeur de la fondation Diger, nous explique comment l'action s'est déroulée avec les écoles.
On ne voulait pas que les enfants donnent de leur argent, ça c'était exclu. On voulait qu'en fait, simplement, ils fassent preuve d'imagination. Et l'imagination a été extraordinaire. Certaines écoles ont fait des films, certaines écoles, notamment ici à Tavannes, ils ont carrément fait un journal qu'ils sont allés eux-mêmes distribuer dans tous les foyers. Il y a eu des ventes de cartes, des ventes de pâtisseries, des spectacles, c'était extraordinaire. Quel que soit le résultat financier, de rencontrer ces élèves, d'avoir leurs questions, leurs réactions, leurs motivations, le but était atteint.
Comment vous les avez sentis prendre cette cause avec eux pendant tous ces mois? Comment vous les avez sentis s'impliquer?
Donc en fait, chaque classe qui débarquait découvrait, beaucoup ne connaissaient pas. Et donc d'abord, il y a cette réaction, mais on ne connaissait pas. Le projet aussi, initialement, il était parti parce que dans beaucoup de classes, il y a des enfants ukrainiens, des enfants réfugiés. C'est comme ça qu'on a démarré le projet avec Mme Esler, qui est en charge de l'éducation du canton de Berne. Donc on a travaillé vraiment avec les autorités. Et donc en fait, eux, ça les rapprochait de leurs camarades ukrainiens, ukrainiennes. Et ouais, il y avait une dynamique vraiment d'amitié, d'enthousiasme. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'était extraordinaire.
Des propos recueillis par José de Sédoux. Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi qu'il allait rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lundi pour faire le point sur les négociations en cours. Seront aussi présents le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Nous devons continuer à faire pression sur la Russie pour la contraindre à la paix, a ajouté le président français. Et on passe à présent à l'actualité sportive avec vous, Corentin Reiss. L'équipe de Suisse de football a eu la main heureuse.
Oui, elle a eu droit à un tirage au sort abordable pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra l'été prochain sur le continent américain. La Nati affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen qui pourrait être l'Italie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles ou la Bosnie. La compétition va d'ailleurs connaître un nouveau format avec 48 équipes en lice contre 32 auparavant. Cette configuration fait baisser l'intérêt de la phase de poule, selon Michel Pont, mais une poule se démarque tout de même, particulièrement pour l'ancien entraîneur adjoint de la Nati.
Le groupe de la mort, pour moi, c'est le groupe de la France. Hein. C'est vraiment un groupe compliqué. Sénégal, c'est pas facile. En 2002, c'était déjà compliqué. La Norvège, bah, c'est l'épouvantail du troisième chapeau. Non, je crois qu'il y a ce groupe-là et le groupe de l'Angleterre qui sont deux groupes qui sont vraiment, pour moi, les plus difficiles et qui vont être extrêmement intéressants. Et puis bon, étant donné qu'on a décidé de monter à 48, que je ne trouve pas forcément une bonne idée, bah on va regarder ce qui se passe avec un pays comme Haïti, qui est dans un tel marasme, une telle pauvreté, d'avoir l'équipe nationale d'Haïti qui peut éventuellement faire rêver ce qui reste des décombres terribles de Port-au-Prince et de ses environs. Voilà, on va soutenir un petit peu Haïti. Puis j'espère surtout peut-être qu'on ait l'Italie dans le groupe, parce qu'une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est toujours compliqué. Alors comme c'est nous qui le tirons, Suisse-Italie va me faire rêver aussi.
Et justement, ce nouveau format avec les meilleurs troisièmes qui se qualifient, est-ce que vous trouvez que ça enlève un certain intérêt à la phase de poule, ou au contraire, c'est l'occasion de voir de nouvelles équipes?
On dilue tout, hein. Je veux dire, il n'y a pas tellement de miracles. Évidemment que ça dilue, puis la qualité est diluée aussi. Et évidemment que les phases de poule, à part deux, trois groupes, vont être relativement vite classées, quoi. Donc ils vont malgré tout enlever de l'intérêt. Réjouissons-nous du groupe de la Suisse, de suivre notre pays, de les encourager, d'être derrière. Et puis, tout ira bien.
Et vous retrouvez un entretien complet avec Michel Pont et son analyse sur le groupe de la Suisse sur notre site rfj.ch. Les skieuses suisses en retrait au Canada, Camira Strestan en embuscade au 6e rang à plus d'une seconde, alors que Wendy Holdener se classe 16e après la première manche géant de Coupe du Monde de Mont-Tremblant. C'est actuellement la néo-zélandaise Alice Robinson qui mène le bal. Elle devance la croatesse Rinka Ljutic et l'américaine Mikaela Shiffrin. Le départ de la deuxième manche est prévu sur les coups de 20h. Le HC Ajoie veut finir en beauté avant la trêve internationale. Au lendemain d'une défaite 5-1 contre Fribourg, les hockeyeurs jurassiens se déplacent à Genève à 19h45. Ils vont vouloir retrouver leur dynamique des derniers matchs pour empocher un maximum de points contre une équipe qui traverse un temps faible. Genève Ajoie, une rencontre à vivre en direct sur RFJ dès 19h30 avec Mathieu Schaffner aux commentaires. Enfin, Max Verstappen partira en pole position du dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Le pilote néerlandais a remporté les qualifications cet après-midi à Abu Dhabi. Il a devancé le leader du général, le britannique Lando Norris, et son coéquipier australien Oscar Piastri. Un podium suffira à Lando Norris pour s'adjuger le titre mondial, mais tout se jouera jusqu'à la dernière ligne droite demain aux Émirats Arabes Unis.
Et on termine avec un point météo. Quelques averses pourraient se déclarer ce soir et cette nuit par endroits. La limite des flocons se situera entre 1500 et 1700 mètres d'altitude. Demain, le temps s'annonce très couvert avec quelques gouttes possibles en matinée avant que la pluie ne devienne plus fréquente et se généralise durant l'après-midi. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés au meilleur de la journée. Excellente soirée.